BPM, élections législatives 2024.
BPM, bienvenue et bonjour si vous venez de nous rejoindre. Nous vous proposons une émission spéciale en direct consacrée au deuxième tour des élections législatives pour la 9e circonscription des Yvelines. Nous recevons en direct ce matin les deux candidats. Tout à l'heure, c'était Laurent Morin qui était à ce micro. Et maintenant, je suis en compagnie de Dienabadia Diop, candidate du Nouveau Front Populaire, arrivée en deuxième position avec 29,64% des voix. Derrière Laurent Morin du Rassemblement National, 34,49% des voix. Dienabadia Diop, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin.
Merci de votre invitation.
Alors, première question, que pensez-vous des résultats de ces législatives au niveau national ?
D'abord, se dire qu'au niveau national, même si le résultat était attendu, je suis quand même assez inquiète de la qualification d'autant de candidats du Rassemblement National au second tour. Il faut absolument que nous soyons extrêmement vigilants et il faut que la mobilisation soit totale pour empêcher que le Rassemblement National n'obtienne une majorité absolue et que Jordan Bardella devienne le Premier ministre de notre pays. Ce serait une catastrophe tant sur le plan économique que sur le plan aussi idéologique. Et je suis quand même assez satisfaite de la qualification d'un très grand nombre de personnes issues de partis, que ce soit du Nouveau Front Populaire, mais encore de la majorité présidentielle ou de ce qu'on appelle la droite républicaine, pour leur faire barrage.
Alors, vous, le Nouveau Front Populaire, au niveau national, vous avez fait 27,99%, c'est ça ?
C'était ça, tout à fait.
C'est ça, et le Rassemblement National, 29,25% des voix.
Oui.
Alors, les résultats dans la 9e circonscription, quels sont
D'abord, être satisfaite du score que nous avons obtenu sur la 9e circonscription. Nous doublons notre nombre de voix et puis nous résistons assez bien dans des petits villages que j'ai eu l'occasion de visiter. J'ai été à la rencontre des électeurs pendant ces 15 jours. Remercier évidemment les électeurs et les électrices de ma ville des Mureaux qui me donnent une avance plus que confortable puisque j'ai obtenu plus de 6000 voix aux Mureaux. Rien n'est joué. Certaines personnes pensent que c'est déjà fait. Il faut rappeler à toutes et tous que le second tour a lieu ce dimanche et que la mobilisation doit s'accentuer absolument pour ne pas avoir un député du Rassemblement National ici qui stigmatise toute une partie des électeurs de notre circonscription puisqu'il a refusé le débat par 3 fois. Et il prétend que parce que je suis une ennemie de la République. Eh bien, excusez-moi, monsieur Morin, mais l'ennemi de la République, c'est vous, avec votre idéologie mortifère. Et j'en veux pour preuve les différentes saillies ou encore déclarations de nombre de candidats du Rassemblement National qui sont des paroles racistes, des casquettes nazies ou encore des prises de position qui sont vraiment à l'encontre des valeurs de notre République.
Alors, ici même, Laurent Morin, il y a quelques minutes, vous attaquez, vous. Mmh. Il paraît que vous avez tracté en même temps au marché d'Oudan. Mmh. Et vous auriez dit à un monsieur qui vient que c'est un blanc privilégié.
Alors,
expliquez-nous un petit peu.
Alors, je ne sais pas d'où sort cette expression, parce que c'est une expression que je n'utilise jamais.
D'accord.
Jamais. J'ai toujours eu des propos qui sont des propos républicains. Vous savez, Monsieur Morin, ce qui aurait été bien, c'est que Monsieur Morin accepte de m'affronter. 3 fois, il a refusé le débat. Si vraiment il a des choses à dire, si vraiment il a un programme à défendre, pourquoi a-t-il refusé par 3 fois d'avoir un débat ?
D'après lui, c'est parce que vous êtes allié avec les extrêmes.
Ah, lui, il n'est pas de l'extrême droite. Je rappelle que la définition de la constitutionnelle, le seul parti d'extrême présent aujourd'hui, c'est celui du Rassemblement National. Le Conseil constitutionnel a été très clair. Ni le Parti communiste, ni la France insoumise n'est un parti d'extrême gauche. Nous défendons la République. Quand Monsieur Morin dit que c'est une blanc privilégié, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette expression est complètement stupide. Moi, ce que je dis, c'est que je suis capable de représenter toutes et tous les électeurs de cette circonscription. Lui n'a jamais mis les pieds, par exemple, au Mureau. Lui n'a pas voulu débattre avec moi. Que défend-il ? Quel est le bilan de Monsieur Morin ? Le bilan de Monsieur Morin, c'est d'avoir été l'adjoint de Cyril Naute à Mantes-la-Ville, d'avoir coupé les subventions aux associations, d'avoir fait des déclarations absolument ignominieuses sur l'équipe de football de Mantes-la-Ville en disant qu'elle ne représentait pas la France. Tout ça parce qu'ils étaient des joueurs issus de la diversité et, soyons clairs, beaucoup de joueurs noirs. C'est ça le problème de Laurent Morin. Laurent Morin, c'est le racisme incarné. C'est ça qu'il représente et pas autre chose.
Alors, on va revenir sur les scores de la 9e circonscription. Bruno Millième, qui est arrivé 3e avec 21,35%, s'est désisté en votre faveur pour faire barrage au Rassemblement National. Alors, j'ai une question à vous poser. Déjà, que pensez-vous de la réaction de Bruno Millième ?
Déjà, je tiens à le remercier pour ce geste républicain. Dès l'annonce des résultats, il n'a pas tergiversé et très vite, il a dit qu'il se désistait. Parce que je crois que Bruno Millième, malgré les divergences et les oppositions que nous pouvons avoir sur un certain nombre de sujets, il y a des valeurs humanistes que nous partageons et il connaît le danger de l'extrême droite. Je salue aussi, par exemple, la prise de position du maire de Houdan, Jean-Marie Tétard, qui lui aussi, dès la publication des résultats, ancien député de cette circonscription, a aussi pris parti pour dire qu'il fallait faire barrage à l'extrême droite et a appelé à voter pour ma candidature. Donc vous voyez, tous ces hommes blancs, comme dirait Monsieur Morin, prennent position pour dire qu'il faut défendre la République. Non pas parce qu'ils sont des hommes blancs ou parce que je suis une femme noire, mais parce que nous sommes avant tout des Françaises et des Français qui sommes attachés aux valeurs justement de fraternité et d'égalité qui fondent notre pays.
Alors, selon vous, est-ce que le message émanant des partis politiques est clair justement pour faire barrage au Rassemblement National ? C'est un peu la cacophonie, hein, on va pas se mentir.
Moi, je trouve qu'il y a quand même le nouveau Front Populaire a été très clair. Nous avons fait 127 désistements.
Je vais être un peu l'avocat du diable. Hein. On va parler de la 10e circonscription. Le candidat du nouveau Front Populaire ne s'est pas désisté. Il est arrivé 3e face à Aurore Berger et un candidat du Rassemblement National.
Nous avons appelé à son désistement et nous avons fait un communiqué avec le Parti communiste, avec Europe Écologie Les Verts, avec Génération, avec d'autres forces du Nouveau Front Populaire, pour dire qu'il fallait absolument faire barrage à l'extrême droite. Et nous regrettons qu'il n'ait pas fait ce désistement, parce que je crois que dans un moment aussi important où l'extrême droite peut obtenir une majorité, on ne peut pas prendre le risque d'avoir un député du Rassemblement National dans notre département. Monsieur Pierre Bédier lui-même, qui est président du département, a aussi déclaré qu'il fallait faire barrage à l'extrême droite.
Oui, partout. Qu'il voterait Benjamin Lucas.
Tout à fait, qu'il voterait Benjamin Lucas. Et je crois qu'il faut être clair. Les seuls à ne pas avoir été clairs dans ce département, c'est quand même les Républicains qui n'ont pas pris position. Je le respecte, mais c'est dommageable parce que justement, lorsqu'on a démissionné pour dire que nous ne voulions pas, par exemple, une alliance entre LR et le RN, il aurait fallu être clair sur le positionnement aujourd'hui que nous avons des seconds tours qui nous opposent pour beaucoup, justement, au Rassemblement National.
Mais le parti présidentiel n'a pas donné de consigne de vote ici, hein, dans la 8e ni dans la 9e.
Bruno
Millième, oui.
Bruno Millième, lui.
Mais dans la 8e, non.
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 Mais je pense que c'est dommageable. En tout cas, je salue le positionnement clair et sans équivoque de Bruno Millième dans cette circonscription.
Alors aujourd'hui, que pouvez-vous dire aux électeurs de droite traditionnelle qui ont voté au premier tour Bruno Millième, qui sont plutôt à droite, mais alors je vais être un peu encore l'avocat du diable, mais qui ne veulent pas de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre ?
Eh bien, je vais leur dire qu'ils n'ont aucun risque en votant pour ma candidature. Je rappelle que je suis porte-parole du Parti Socialiste et que dans toutes les discussions que nous avons eues et dans toutes les prises de parole que nous avons eues, que ce soit les socialistes, les communistes ou encore Europe Écologie Les Verts, il y a une chose qui est très claire. La première, c'est que, vous savez, je pense qu'il est peu probable que nous obtenions une majorité absolue au soir du 7 juillet. Donc il n'y a aucun risque sur le fait que Jean-Luc Mélenchon puisse devenir Premier ministre. La deuxième, je rappelle aussi qu'il s'agit d'un appel qui doit être fait par le président de la République pour nommer le Premier ministre. Je doute que Emmanuel Macron puisse l'appeler. Et puis enfin, je veux leur dire que aujourd'hui, La question qui se pose, c'est pas de savoir qui sera Premier ministre. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut ou pas de l'extrême droite au pouvoir dans notre pays ? Et donc, je crois que ce que nous partageons très clairement, c'est que l'extrême droite ne peut pas nous représenter. Nous ne pouvons pas accueillir les Jeux Olympiques avec comme Premier ministre Jordan Bardella. Et puis, je tiens à rappeler que dans l'histoire, nous savons que lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir, elle a du mal à le rendre et surtout, on ne sait pas dans quel état elle rendra notre pays. L'économie va s'effondrer si jamais nous avons l'extrême droite au pouvoir. Les marchés ont déjà réagi parce que ils se disent qu'avec la mobilisation de la population et aussi des électeurs et des électrices, il y a peu de chances aujourd'hui qu'ils obtiennent la majorité absolue. Il faut accentuer cette mobilisation au soir, toute la journée dimanche 7 juillet. Et vous savez, je suis quelqu'un qui a des valeurs républicaines, laïques, sans ambiguïté. Et il n'y aura pas Jean-Luc Mélenchon au soir du 7 juillet qui sera désigné comme Premier ministre. Il faudra un vote de l'ensemble des députés du Nouveau Front Populaire. Et l'ensemble du Nouveau Front Populaire, à majorité des autres partis, a été très clair. Ça ne peut pas être Jean-Luc Mélenchon.
Alors, admettons que vous n'ayez pas la majorité absolue. Comment on fait ? On sort déjà d'une assemblée où il n'y avait pas de majorité absolue. Là, ça sera deux fois pire. Donc comment on fait ? Comment on va faire pour gérer le pays ?
Eh bien, pour gérer le pays, il y a deux solutions. Soit il y aura ce qu'on appelle un gouvernement technocratique, et je pense qu'Emmanuel Macron, dans ces cas-là, se saisira de l'article 16 pour avoir tout pouvoir pour diriger notre pays, au moins pendant un an, parce que je rappelle qu'il n'y a pas de possibilité de dissolution
pendant un an. Mais on ne va pas voter tous les ans non plus.
Non, on ne va pas voter tous les ans, ce serait vraiment très bien. Et puis sinon, ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'en France, on apprenne à faire ce qu'on appelle ce que font les Européens au Parlement, c'est-à-dire un consensus, c'est-à-dire aller chercher des majorités sur des sujets majeurs et aller discuter. Peut-être que ça remettra aussi
un peu de mal en France là. Hein. Oui, depuis deux ans, c'est pas...
Oui, mais depuis deux ans, on avait quand même une majorité relative qui permettait quand même à la majorité présidentielle d'aller chercher une majorité à droite. Aujourd'hui, on pourrait se retrouver effectivement au soir du 7 juillet, une majorité relative où on aurait un quasi-équilibre entre le Rassemblement national, le Nouveau Front Populaire et le centre. Eh bien, il faudra aller chercher intelligemment des majorités sur des sujets majeurs, comme par exemple la fin de vie, comme par exemple aussi l'équilibre des budgets, etc. Moi, je crois qu'il faut aussi apprendre à remettre au Parlement, lui redonner son pouvoir, c'est-à-dire son pouvoir législatif et son pouvoir justement de décision pour grandes orientations de notre société. Il faut le faire, d'autres pays le font, la Suisse ou encore l'Allemagne. Eh bien, je crois qu'il faut aussi réapprendre à ce que c'est que la démocratie et arrêter avec des 49-3 et des décrets qui sont pris en dépit de la population et de l'opinion publique.
Allez, on va revenir sur le programme justement du Nouveau Front Populaire. Vous êtes pour la hausse du pouvoir d'achat. Alors comment on fait ? Parce que là, c'est dur en ce moment.
Eh bien, hausse du pouvoir d'achat, c'est d'abord augmentation du SMIC qui passe à 1600 euros net. C'est aussi...
Là, on passe de 1398,70 à 1600.
1600 euros net.
Comment on fait ?
Eh bien, vous le financez avec déjà le retour de l'impôt sur la fortune, avec une taxation sur les super profits. Je vais être très clair.
Aujourd'hui, oui, quand on dit ça à une PME ou une TPE, ça leur fait un peu peur. Ils se disent déjà, on a du mal, etc.
Bien sûr, mais parce qu'il faut le financer. Et pour le financer, c'est assez simple. Il faut d'abord que les gens se rendent compte que les super profits, ou encore les grandes dividendes, c'est plus de 1300 milliards de profits tous les ans, 1300 milliards. Nous, la totalité de notre programme pour le financer, il faut 106 milliards. 106 milliards, ça veut dire que vous n'avez
donc
besoin
vous chercher
que de 8%. Déjà, taxer les super profits, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, et effectivement, une aide aux TPE, aux PME pour financer cette hausse. Cette hausse justement
Des charges sociales.
Une baisse des charges sociales qui permettra eux d'anticiper et justement de pallier à cette hausse de salaire que nous allons donner directement justement aux travailleurs. Vous savez, tout est une question de volonté politique. Quand il a fallu sauver les banques, on a su trouver l'argent. Quand il a fallu pendant le Covid maintenir les salaires, on a pu aussi trouver l'argent. Et donc cet argent que nous voulons mettre, ces 106 milliards, c'est beaucoup moins que tout ce que nous avons dépensé pour les banques ou encore pendant la période du Covid. Et en plus, cet argent, nous savons où le chercher, nous savons comment le financer, puisque notre projet économique a été validé par des économistes illustres comme Julia Cagé ou encore vous avez des gens comme Esther Duflo, prix Nobel de l'économie, qui a validé le plan de financement. Donc il n'y a aucun risque sur ce que nous proposons. Toutes les mesures seront financées.
Vous voulez également le blocage des prix pour les biens de première nécessité.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous allez sur le terrain, quand vous discutez, ce qui étouffe justement le pouvoir d'achat, c'est l'augmentation, l'inflation des prix d'alimentation, alors, de l'énergie, mais et aussi...
Oui, excusez-moi, je fais mes courses. Si on me dit le prix va rester le même, ça me fait mal.
Non.
Parce qu'il a bien augmenté depuis...
Mais bien sûr, il va falloir bloquer, mais il faut aussi baisser les prix de première nécessité. C'est-à-dire que ce soit sur les carburants, sur l'alimentation ou encore sur l'énergie. Par exemple, nous allons bloquer l'augmentation du prix du gaz qui est prévue au mois de juillet. Je vous rappelle que...
10%.
Donc, 10%, c'est ce qui est prévu. Donc déjà, bloquer cette augmentation. Parce que j'ai rencontré aussi des petites entreprises. Vous savez que beaucoup sont le couteau sous la gorge, ou beaucoup ont fermé à cause de l'inflation et de justement de l'augmentation de prix de l'énergie. Quand vous avez des frigos, vous les débranchez pas. Et quand vous êtes une boucherie, une boulangerie, c'est ce qui fait justement défaut, parce qu'il n'y a pas eu d'instauration d'un prix social, une tarification spéciale pour les entreprises, alors qu'elles en ont besoin pour les plus petites. Toutes ces mesures-là, on peut les mettre en place. Et là où vous avez raison, il ne suffira pas de bloquer les prix. Il faudra aussi revenir à un prix qui soit raisonnable et abordable pour les ménages.
Vous voulez également la suppression de la taxe 10% sur les factures d'énergie. Vous les baissez de 10%.
Oui, on les baisse.
Donc vous arrêtez vous stoppez l'augmentation du gaz baissez de 10% les factures d'énergie.
Tout à fait.
Comment on fait ?
Eh ben parce que je vous l'ai dit, parce qu'on va aller chercher justement une taxe sur, c'est ce qu'on appelle la taxe verte, qui va pouvoir financer sur les très hauts patrimoines, pouvoir financer justement le prix de l'énergie pour les plus petits ménages et aussi pour les petites entreprises. Il faut aller faire une contribution de celles et ceux qui, eux, ont les moyens de le faire. Et puis, vous savez, ce n'est pas une contribution, on va les taxer à 20, 30%. C'est une contribution qui oscillera entre 2 et 4%. Parce que ces gens-là pratiquent ce qu'on appelle une optimisation fiscale qui leur permet de ne quasiment rien payer. Et donc aujourd'hui, avant de courir ou de stigmatiser sur l'assurance chômage ou une éventuelle fraude fiscale, nous, ce que nous voulons, c'est déjà capter les milliards que nous perdons avec l'évasion fiscale qui, eux, se monte à plus de 300 milliards aujourd'hui.
On va continuer avec les mesures, la gratuité des premiers kilowattheures d'électricité.
Oui. Parce qu'on sait très bien que pour beaucoup de ménages, le problème, ceux qui sont les plus précaires, parfois ils doivent choisir entre se chauffer et avoir un repas chaud. Et nous ne voulons pas que celles et ceux qui sont les plus précaires aient à faire ce type de choix. Lorsque vous êtes en hiver et que vous avez des personnes qui sont obligées de cumuler des pulls ou de ne pas se chauffer et d'être dans des situations où en plus ça déclenche des problèmes de santé, ce n'est pas normal. Nous sommes dans un pays où la solidarité doit pleinement s'appliquer.
Alors, un sujet phare également de votre programme, la retraite. Oui. Le retour de la retraite à 60 ans, c'est
ça ? Oui, d'abord l'abrogation de la réforme des retraites qui est telle qu'elle existe aujourd'hui parce qu'elle est injuste. Et bien sûr, le retour de la retraite à 60 ans. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron, rappelons-le, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a fait, c'était annuler les critères de pénibilité. Vous savez, quand vous êtes un éboueur, quand vous êtes quelqu'un qui travaille en 3-8, un maçon, vous avez des critères de pénibilité qui ne sont absolument pas les mêmes que moi qui, par exemple, suis enseignante. Vous avez ces critères de pénibilité permettaient à ces carrières longues, souvent en plus ce sont des gens qui commencent à travailler très tôt, de pouvoir partir à la retraite dès 55 ans pour certains, parce qu'ils avaient atteint les carottes annuités de cotisation. Eh bien, avec le recul de l'âge légal à 64 ans, ces personnes-là ne peuvent plus partir. Donc, nous, ce que l'on dit, c'est abrogation de cette réforme des retraites, prise en compte des critères de pénibilité et surtout ouvrir une grande conférence sociale avec les organisations syndicales pour pouvoir justement rétablir des critères qui permettent à chacune et à chacun de partir à la retraite dans de bonnes conditions. Et puis surtout, rappelons cette espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé, il y a 10 ans d'écart si vous êtes un cadre ou si vous êtes un employé du BTP. Toutes ces choses-là, elles doivent être prises en compte. Et adapter ceci aux conditions de travail, c'est permettre à chacun de pouvoir partir à la retraite dignement et de pouvoir en profiter aussi le plus longtemps possible.
Il nous reste 2 minutes de sujet, reconstruire l'hôpital public et vous voulez la gratuité totale des écoles, cantines, fournitures, transports périscolaires.
Oui, parce qu'on sait très bien que c'est un des premiers postes de dépenses pour les familles. Quand vous avez le pass Navigo dont le prix a explosé, quand vous avez aussi à côté de cela des frais de cantine qui ont considérablement augmenté, souvent d'ailleurs compensés par les collectivités locales, hein, il faut le reconnaître, les parents n'y arrivent plus. Eh bien, pour pouvoir avoir une bonne scolarité, il ne faut pas avoir à se préoccuper de ce type de dépenses. Et enfin, pour reconstruire l'hôpital public, c'est un des premiers thèmes sur lesquels les gens vous interrogent, c'est l'accès aux soins. L'accès aux soins, il est possible d'abord par une revalorisation des salaires de celles et ceux qui s'occupent de notre santé, mais aussi les aidants des malades. Il faut aussi penser à celles et ceux qui ont des enfants en situation de handicap, à ces AESH, ces aides en milieu scolaire qui permettent à nos enfants qui sont en situation de handicap de pouvoir poursuivre les études. Il faut effectivement que, d'un point de vue global, l'accès aux soins, par exemple aussi tout ce qui est la psychiatrie, la santé mentale, tout ça, il doit falloir qu'on reconstruise cet hôpital public qui est un de nos biens les plus précieux et surtout un de nos premiers droits qui a été mis à mal, notamment ces 7 dernières années, mais pas seulement, il faut le reconnaître.
Allez, pour conclure cette émission, que pourriez-vous dire aux électeurs qui nous écoutent ?
Je vais leur dire qu'ils ont un choix très simple à faire ce dimanche. Soit vous choisissez d'avoir une députée qui représentera toutes et tous, qui est attachée aux valeurs de la République, soit vous choisissez de donner le pouvoir à quelqu'un qui est quelqu'un d'extrême droite, qui a une idéologie nauséabonde, soutenue par des gens qui envoient par exemple des tracts pour dire aux gens qu'en fonction de leur couleur de peau, ils ne sont pas les bienvenus dans notre République. Eh bien moi, je serai celle qui vous représentera toutes et tous, sans aucune ambiguïté, et je crois qu'il faut choisir. Ce soir, c'est simple. Dimanche, il faudra choisir. Est-ce que nous voulons ou non l'extrême droite au pouvoir dans notre pays ? Est-ce que nous voulons un député de l'extrême droite dans nos cérémonies patriotiques lorsque notre pays a été sauvé justement de la domination de l'extrême droite il y a de cela plus de 80 ans ?
Merci Madame Diop, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci à vous.
Cette émission spéciale élection législative est à présent terminée. Elle sera rediffusée à 13h et 18h30. Vous la retrouverez sur le site internet de la radio bpmlaradio.com, rubrique législative 2024. Demain, à cette même place, ça sera Cyril Naute à 8h, candidat du Rassemblement National pour la 8e circonscription, et Benjamin Lucas à 8h30. Excellente journée à l'écoute de BPM.
BPM, élection législative 2024.